t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Très heureux de vous retrouver à nouveau dans cet échange citoyen. Parole aux auditeurs sur Radio Okapi. Merci à toute l'équipe qui concourt à la production de ce nouveau numéro. La République démocratique du Congo était présente au sommet de l'ONU sur l'environnement tenu la semaine dernière à Nairobi. Les débats au cours de ces assises ont tourné autour des innovations à apporter en termes des alternatives à envisager pour la transformation de tout ce qui détruit l'environnement. Certains observateurs estiment que pour faire face à la question des matières non biodégradables en RDC, il faut absolument un programme autour du recyclage. D'autres pensent que la solution est à trouver ailleurs. Alors qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Germain Kabamba, vous êtes avec nous? Bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Germain. Je disais tout à l'heure, la gestion, la problématique de la gestion de l'environnement à RDC se pose avec acuité. Aujourd'hui, quand nous observons tout autour de nous, beaucoup de cas ou des têtes d'érosion qui menacent même les grandes infrastructures publiques, routes, ponts, immeubles et autres. Et c'est dans la plupart des cas les conséquences de la mauvaise gestion de l'environnement par la population. À cela s'ajoutent également des problèmes de genre, des inondations, des ruissellements et surtout la question épineuse de construction anarchique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la RDC, qui a participé à plusieurs assises régionales et internationales sur la problématique de l'environnement, pourquoi n'arrive-t-elle pas à gérer de manière qualitative cet environnement pour, au fait, lutter contre tout ce que nous avons évoqué comme conséquence? Alors, nous avons en ligne Bob Tshibangu qui est avec nous, un expert en environnement, un expert en développement durable. Bob Tshibangu, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Radio Okapi.
Voilà, comment réagissez-vous par rapport à cette question? La République démocratique du Congo, qui était présente au sommet de l'ONU sur l'environnement, tenu la semaine dernière à Nairobi, et au regard de ce que nous observons autour de nous, dans notre environnement, avec des inondations et aussi des têtes d'érosion qui menacent, comment arriver aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème au niveau de la gestion qualitative de notre environnement?
Effectivement, Radio Okapi, nous sommes en train de saluer premièrement la participation du chef de l'État à ce sommet. Cela implique, je l'espère bien, sa volonté de vouloir engager la République démocratique du Congo dans cette lutte et, comment dirais-je, dans cette protection de l'environnement. Et nous disons que, dès lors qu'au niveau de la politique, au niveau de l'homme politique, il y a cette volonté, sûrement, il peut y avoir de l'implication qui va impacter positivement les mentalités de nos populations. Parce que le grand danger, nous l'avons constaté, ce qui cause du tort à notre environnement, comme vous l'avez dit, les têtes d'érosion, des moindres pluies, on a des rivières sur toutes les grandes artères de nos grandes villes, c'est le comportement de la population. Mmh. Donc, dès lors qu'il y a une prise de conscience au niveau politique, je pense que cela va se répercuter sur la population par des petites pratiques qu'on doit observer dans la vie quotidienne. Mmh. Si on observe ces pratiques, je pense qu'on va réduire sensiblement la production de ces matières qui ne sont pas dégradables et qui résistent à moindre pluie, on les tire dans des caniveaux et ça crée des inondations et tant d'autres dégâts.
Alors, parce qu'on parle des matières non biodégradables, pour éclairer, au fait, les commets des mortels, pour éclairer la lanterne des uns et des autres, est-ce que vous pouvez énumérer ces matières-là?
Bon, en les termes matières un peu simples. Non dégradables, bon, s'il faut être, il faut aller avec des exemples trop terre à terre et clair. Il y a, par exemple, les sachets, et les sachets en plastique qu'on utilise comme emballage. Il y a des bouteilles d'eau, les bouteilles de boissons sucrées que les gens utilisent régulièrement et qui jettent sur la rue. Voilà quelques exemples des matières qui sont non dégradables. Du fait que vous pouvez les jeter à un endroit, vous passez un mois, deux mois, vous trouvez la bouteille là-bas, vous trouvez le sachet là-bas. Donc un sachet, même enterré, après un mois, une année, deux ans, tu creuses, tu les trouves encore là. Il ne va pas se décomposer. Ce sont là les matières qu'on appelle matières non biodégradables. Mais une peau de banane, tu manges une peau de banane, tu la jettes. Après deux, trois jours, ça se décompose, ça se confond avec la terre. C'est dégradable.
Alors, la grande préoccupation, la RDC a participé à plusieurs assises régionales ou encore internationales sur la problématique de l'environnement. Mais alors, pourquoi on sent de moins en moins les efforts ou l'engagement de l'État pour arriver à des solutions durables?
Bon, là, je ne sais pas. Nous n'avons jamais été associés au niveau politique, hein. À la définition des stratégies pour lutter contre la propagation ou bien l'usage de ces matières non dégradables. Mais sinon, comme on l'a souligné, tout dépend de la volonté. Tout dépend de la volonté. Moi, je l'ai toujours dit, la population, elle reflète toujours les grandes lignes qui sont définies par l'homme politique. Donc, nous l'avons constaté dans ce pays. Il y a eu des moments où il y a des changements, des dirigeants, des révolutions. Je prends l'exemple trop terre à terre de l'entrée de l'AFDEL, où on a vu des gens se corriger avant que les militaires ou l'équipe de AFDEL ne gagne leur ville, leur cité. On vous dit, par exemple, voilà, avec les gens qui viennent, on ne peut pas pisser au bord de la route. Et les gens s'est corrigé. On ne peut pas manger les cacahuètes et les jeter les écorces sur la route. Les gens ont observé ça. Donc, j'ai dit, c'est un problème de volonté. Il y a un problème de volonté et aussi un problème de moyens. Parce que on ne peut pas aussi mener une vie sans produire, donc sans usage de ces matières non dégradables. Mais, s'il y a des politiques pour gérer ces matières-là, c'est une bonne chose. Faut qu'il y ait des politiques pour accompagner la gestion de ces matières dégradables. Comment on va les gérer? Voilà.
Alors, il y a une grande question aussi, aujourd'hui, l'absence d'une politique d'urbanisation de la ville de Kinshasa ou encore d'autres grandes villes du pays. Et cela s'inscrit aussi dans ces problèmes-là.
Effectivement. Donc, c'est un problème qui est général. Peut-être qu'à Kinshasa, c'est compte tenu du volume de la production de ces matières non dégradables, qui fait que Kinshasa devient de plus en plus en danger. Mais de l'autre côté, au niveau de l'intérieur du pays, le problème est là, et cela peut nous amener toujours à des catastrophes. Donc je dis, il faudrait qu'il y ait des politiques bien claires pour la gestion de ces matières, très très claires, et en commençant par nos maisons.
Oui,
comment les communes peuvent gérer ces matières?
Oui,
Bob
Tshibangu, quand vous parlez des politiques claires, vous faites allusion à quoi? Quels sont ces préalables?
Les politiques claires, ce sont des politiques qui doivent intégrer tous les acteurs dans la gestion de ces matières non dégradables. En commençant par les grandes d'abord entreprises. Donc j'ai dit en commençant par nos familles, donc les consommateurs. On prend les consommateurs, nous prenons aussi les producteurs. Parce que tout ce que nous consommons, ça vient de quelque part. Mais les personnes qui produisent, ils doivent savoir comment produire. Comment produire pour ne pas déranger l'environnement. Et là, c'est le gouvernement qui doit définir ses politiques. Parce que j'aurais appris dernièrement qu'il y a des sociétés en contrepartie de la production des matières non dégradables, ils contribuaient avec un peu d'argent au niveau du budget de la ville de Kinshasa pour faire face à la gestion de ces matières non dégradables. Mais ce n'est pas vraiment suffisant. Pourquoi ne pas produire ces matières et migrer vers une autre forme de production plus saine? Migrer vers les emballages qui ne vont pas déranger l'environnement, par exemple. Oui. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous sommes en train de voir se rédiger la politique de gestion de l'environnement au niveau de la RDC.
Oui, mais d'autres proposent également le recyclage pur et simple de ces matières.
Effectivement.
Ça peut être une solution.
C'est pourquoi j'ai dit, mais le recyclage, c'est quand on a produit ces matières. C'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas aussi vivre, on ne peut pas vivre dans une société sans produire ces matières. Mais on doit réduire sensiblement la production de matières
non biodégradables. Voilà.
Donc,
alors, nous vous gardons en ligne, Monsieur Bob Tshibangu, expert en développement durable, pour écouter d'abord les auditeurs qui nous ont rejoints à cet échange citoyen sur les ondes de Radio Okapi. Et puis, on reviendra à vous après avoir fait les tours du pays et à l'étranger avec nos compatriotes Jérémy et Alumbashi de Gracias Akananga. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Benokela kozabakati kuvukana nitu na kata kisadi ya ONU mpe mwana fiote ya melungisa ntete ve bambula kumi na nana kubutuka kele kifu angolo kuvukana nitu kimutu ya vwana mwana fiote tumbuta mutu nkatuluzolo nandi todiaka kupusa yandi na ngolo kele kifu anene wapi ONU kepesa kandola ngolo ya ukele kifu angolo kana tijambo wa mutu ya mekumina kange toka nangeme monaka yao kwenda kufunda na banjo bisala MONUSCO na ntuma dikana na benu todiaka kubinga nkatu kupesa kima na 081 89 074 44 todiaka na 09 97 058 ba 03 na ntuka bisala ya MONUSCO mpe ya ONU na République démocratique du Congo mebuya na ntima mosi kuvukana na ngolo ti muntu mpe kubaka banketo na ngolo ya ikele ntsangu ya ONU.
Parole aux auditeurs.
Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Jérémy.
Bonjour, monsieur JR. Bonjour également à l'État avec vous. Nous saluons vraiment la tenue du sommet de l'ONU, bien sûr. Mais il se dégage que l'environnement... c'est-à-dire la mauvaise gestion ou soit la situation donc difficile de notre environnement revient d'une part aux gouvernants qui sont censés imposer une politique idoine et adéquate, question de pouvoir remettre les choses sur une bonne voie, et d'une autre part c'est également la population qui ne sait pas gérer bien son environnement, parce que nous trouvons ça et là des matières non dégradables qui sont en train d'envahir notre environnement. Il suffit, M. JR, de tourner un peu, de faire la ronde sur dans notre pays. Si vous êtes, par exemple, à Mbujimayi, vous allez voir qu'il y a un milieu qu'on appelle carrément, comment on appelle ça, l'érosion, Mbalawachitolo, qui est presque vraiment, quand vous regardez la route, on ne sait pas, il n'y a pas communication tout simplement par la mauvaise gestion de ces matières. Vous avez, quand vous êtes à Kananga, vous voyez un peu les quartiers qu'on appelle l'avenue du Mangué là. Vous trouvez que ce quartier Kananga 1 qui est presque envahi. Ici à Lubumbashi, c'est également le cas pour la commune Katuba qui ne semble pas vraiment être en bonne forme, tout simplement parce qu'il y a une mauvaise politique imprimée par ceux qui sont censés gouverner. Il semble que c'est le gouvernement, par les billets, via son, le ministère de l'Environnement, qui doit pouvoir imposer une politique adéquate, et voire même aux entités provinciales, question de remettre les choses sur de bonnes voies. Je pense qu'il est plus que temps pour que nous puissions un peu remettre les choses en place et utiliser la procédure de recyclage lorsqu'il y a des matières.
Oui, est-ce que Jérémy, vous pensez, comme disent les autres, qu'il est nécessaire aujourd'hui de réfléchir en termes de budget participatif au niveau des entités déconcentrées ou encore des entités décentralisées pour finalement toucher réellement le fond des problèmes au niveau de la base?
Effectivement, M. Jier, parce que les pays comme la France et d'autres pays, il y a un système, donc c'est-à-dire une politique qui est imposée, soit la mairie s'occupe, ou soit même les autorités municipales s'occupent de cette affaire, question de pouvoir gérer leurs administrés tout en gérant tout ce que nous avons là-bas comme matière dégradable qui non dégradés qui doivent être gérés en bonne et due forme, question de pouvoir remettre les choses sur les bonnes voies. Il y a même certaines matières qu'on doit peut-être remettre sur, donc, c'est-à-dire en termes de recyclage, soit la réfection des routes, tout ça, mais nous ici au Congo, on n'a pas cette politique de bien gérer sur tout ça. C'est pourquoi notre environnement est presque envahi. Il y a même certaines entreprises qui sont là, qui vendent librement leurs occupations, tout en polluant notre environnement. Tout ça, l'État ne voit pas. Je ne sais pas, on attend quoi. Il faut que...
Alors, s'il y a des solutions à apporter en termes de lutte contre la déforestation, des constructions anarchiques, ou encore les jets de déchets et immondices dans les caniveaux et autres rivières, qu'est-ce que vous allez proposer, vous, Jérémy?
Effectivement, M. Juillère, moi, je propose ceci. Il faut presque imposer une culture aux Congolais que nous sommes. Surtout nous, les administrés, nous devons chercher à prendre conscience. Donc, c'est-à-dire utiliser une politique de proximité. À partir des avenues, à partir des quartiers, question de remettre, que chacun prenne conscience qu'il faut vraiment l'affaire de l'environnement me concerne, l'affaire de l'environnement concerne tout le monde. Et on ne sait pas, M. Gér, il y a même des cas. Ceux qui construisent, qui réfectionnent des routes, ils ne savent pas canaliser l'eau. Il y a même des choses, vous trouvez dans des caniveaux, il y a des bouteilles et tout ça. Et il faut attendre que Jésus descende du ciel pour pouvoir nous donner cette politique. Mais c'est à nous de prendre conscience et remettre les choses sur le bon.
Voilà, merci beaucoup Jérémy. Vous évoquez là le cas de conscience de la population, comme l'a dit d'ailleurs notre invité, au-delà de la volonté politique. Mais il va falloir que la population puisse participer aussi à cette lutte pour la gestion qualitative de notre environnement. Merci beaucoup Jérémy. Deo Gracias, vous êtes à Kananga, bonjour et bienvenue.
Bonjour à vous la Radio Kapi, bonjour à tous les Congolais qui écoutent l'émission. Merci beaucoup en tout cas pour l'émission, la thématique du jour. Cette thématique ici avait fait autrefois l'objet de nos réflexions dans certains travaux scientifiques. Vous remarquerez que la gestion, n'est-ce pas, de matières non biodégradables, comme le souligne le prédécesseur, bien sûr que la population peut être consciente, peut user de sa conscience, n'est-ce pas, pour lutter par rapport à ça. Mais c'est un problème, n'est-ce pas, à gérer en amont et en aval. En amont, on doit, n'est-ce pas, avoir le producteur, comme les producteurs, n'est-ce pas, des matières plastiques, de chasser et autres. Vous savez que les recherches nous démontrent que pour un sachet puisse se détériorer, en tout cas, il faut attendre après 100 ans. Vous imaginez avec les matières plastiques qui durent plus longtemps pour, n'est-ce pas, la destruction et avec les masses de ces sachets-là, et ça posera toujours des problèmes à la longue. Il serait mieux, n'est-ce pas, que les gouvernements en amont sur par rapport à la production de ces matières plastiques. On peut créer, comme les emballages-là, on peut créer les matières dégradables. Pour, n'est-ce pas, à lutter contre quoi, les érosions autres, et par rapport, n'est-ce pas, à ces phénomènes-là. Et maintenant, par rapport à des bouteilles, comme de parler les bouteilles d'eau et autres, on peut, n'est-ce pas, utiliser des recyclages. Là, il faut encore un enseignement et une leçon approfondie, n'est-ce pas, à la population pour savoir bien utiliser les recyclages de ces matières-là. Ça, c'est un problème qu'on doit résoudre et en amont et en aval. Maintenant, par rapport, n'est-ce pas, à des pays aussi. Vous remarquez que ça évoque un problème de l'accord de Paris sur le climat. Mmh. En 2015, les pays, n'est-ce pas, sont réunis pour, n'est-ce pas, voter, s'adhérer, n'est-ce pas, à cet accord de Paris sur le climat. Il y avait un principe qu'on avait souligné. C'était un principe de pollueur-payeur. Vous savez que les grands pays, n'est-ce pas, les grands pays industrialisés, les pays, n'est-ce pas, plus développés au monde, ce sont les pays qui sont à la base aujourd'hui de ces réchauffements climatiques. Ils vous créent avec les technologies avancées beaucoup, n'est-ce pas, de matériel, n'est-ce pas, et ils émettent les gaz à effet de serre. Et les retombées sont chez nous ici. Conséquente, c'est laquelle nous avons de fortes chaleurs, nous avons de fortes pluies, il y a des érosions qui se créent chez nous. On avait prévu ceci. On avait prévu que chaque pays, n'est-ce pas, émetteur de gaz à effet de serre, doit contribuer à l'accord de Paris sur le climat pour financer les pays pauvres. Vous savez que dans cette notion-là, ce fonds-là était réparti en prêts et dons, qui devrait, n'est-ce pas, permettre...
Oui, Deo Gracias. Aujourd'hui, quand nous scrutons la loi fondamentale, on sait que en termes de matières exclusives du gouvernement central ou encore de matières exclusives des provinces, il y a cette gestion, la question de la gestion des matières ou des déchets ou encore des matières non biodégradables. Alors aujourd'hui, c'est vrai pour la ville de Kinshasa, il y a tout un programme d'assainissement de la ville qui y prend en compte. Est-ce qu'il faut que ce genre de programme puisse remonter jusqu'au niveau national, qui est vraiment un programme national d'assainissement qui gérera cette matière-là?
Il faut que ce projet-là monte jusqu'au niveau national. J'étais en train de réchuter pour dire ceci. Les États-Unis s'étaient retirés de l'accord de Paris en 2017. Mmh. Il s'est retiré aussi longtemps qu'il est le premier pollueur de la nature. Il se retire. Est-ce que d'autres pays, n'est-ce pas, ont attaqué les États-Unis pour dire que, n'est-ce pas, vous êtes retiré de l'accord de Paris? Est-ce que les États-Unis ont cessé de mettre les gaz à effet de serre? Non. Vous savez qu'il y a deux grandes forêts qui, n'est-ce pas, contribuent, n'est-ce pas, à l'humanité, à la survie de l'humanité tout entière. Et la conséquence, c'est laquelle? Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC peut se lever un jour pour dire que non, moi, je vais stopper l'oxygène pour que ça ne transite pas les États-Unis? Non. Vous voyez que c'est nous ici, c'est quoi la constante laquelle? Venez à Tananga, vous allez voir. Il y a des têtes d'érosion qui coupent maintenant les altères, qui coupent maintenant les avenirs. Pourquoi? Parce que là, j'évoque aussi les problèmes, n'est-ce pas, de ministère de l'Environnement, mm-hmm, par rapport à ces divisions représentées au niveau provincial. Ils distribuent les parcelles d'une manière, n'est-ce pas, biaisée dans des terrains versants. Les terrains versants, n'est-ce pas, ils lotissent là, mm-hmm, et ils ne contrôlent même pas les lotissements. Et conséquence, c'est que lorsque les eaux de ruissellement retombent, il y a conséquence à tout moment de création des têtes d'érosion. Et maintenant, ça fait maintenant alourdir aussi le budget de l'État. Au niveau de la province du Kassai Central n'a jamais démontré son budget. Et lorsque, n'est-ce pas, l'ex-gouverneur Denis Kambay a voulu évaluer les petits travaux qu'il avait amorcés pour l'érosion qui devait couper les boulevards, vous verrez que non, ce budget-là est...
Je crois que vous avez la matière à donner dans cette émission. Nous vous gardons encore en ligne. Le temps d'écouter Omar. Omar, vous êtes à Kinshasa. Et puis on reviendra à vous et à Bob Tshibangu. Omar, vous êtes avec nous. Bonjour. Maître Omar, vous êtes avec nous? Voilà, le temps que la ligne de Mar s'améliore, on va revenir à Bob Tshibangu, s'il peut réagir quand même par rapport à l'intervention de Deo Gracias tout à l'heure. Et Deo, vous gardez la ligne. Bob Tshibangu?
Oui, je vous écoute, JR.
Quelle est votre réaction après avoir écouté les autres?
Non, en tout cas, je suis en train de saluer les réactions des intervenants qui m'ont succédé. Et je pense que nous nous mettons tous d'accord de l'implication des uns et des autres. Donc ici, je vois la population et les gouvernants. Mais je voulais seulement ajouter que le gouvernement doit s'impliquer à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux, en commençant par le niveau national jusqu'au plus bas niveau, au niveau des quartiers. Parce que, comme nous le savons, nos populations souffrent de fois par manque d'informations. Les gens ne sont pas sensibilisés. Donc il faudrait sensibiliser nos populations sur les impacts néfastes de l'utilisation et de la mauvaise gestion de ces produits non biodégradables. Et si cela est fait à tous les niveaux, les gens prennent conscience et bien entendu, on met en place aussi un mécanisme, un système de gestion de ces déchets, de recyclage de ces déchets, je pense que nous allons éviter tant soit peu certains risques liés à ces matières non biodégradables.
Oui, mais Bob Tshibangu, quand on regarde, disons, la RDC dans cette lutte pour un meilleur environnement, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont été, en tout cas au niveau national et même au niveau international, avec cette ONG Foleco à l'époque, qui notamment avait pris en charge la lutte contre les érosions. Mais on se rend compte aussi, finalement, après plusieurs années, cette lutte semble être vraiment une goutte d'eau dans l'océan.
Bon, JF, je vois que le problème à ce niveau, c'est quoi? Les gens s'attaquent directement aux conséquences. Le dernier intervenant a dit quoi? Il faut saisir le problème, donc gérer le problème en amont et en aval. Mais quand vous allez directement en aval, vous laissez le problème, la source reste. Et la source, c'est quoi? C'est ces mentalités. Vous allez attaquer l'érosion. Qu'est-ce qui a été à la base de l'érosion? C'est ça qu'il faut attaquer. L'érosion, vous allez mettre des sacs et puis vous barrez l'érosion. Mais qu'est-ce qui a causé l'érosion? C'est la mauvaise gestion de l'environnement. Et c'est ça qu'il faut attaquer. Et si jamais vous attaquez la source, et la source, donc on se met d'accord avec moi, c'est d'abord les mentalités. C'est notre mode de vie. Comment nous vivons? Avec quoi nous vivons dans notre environnement? Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous utilisons pour notre survie? C'est ça le grand problème. Enfin, et dans ce que nous utilisons, le gros, ce sont ces produits-là qui ne sont pas biodégradables. Voilà. Comment on va les utiliser maintenant? C'est ça le problème, il faut sensibiliser. Donc Foleco a plus attaqué les érosions, mais n'a pas sensibilisé sérieusement la population. Et je pense que ce n'est pas vraiment le travail des ONG, c'est le travail d'abord du gouvernement. Vous l'avez souligné, oui. Voilà. C'est le gouvernement qui est le premier à s'engager. C'est pourquoi nous avons salué la participation du chef de l'État au niveau de Nairobi. Donc ça nous donne l'espoir. Je pense qu'il va bien intégrer, comme on l'a aussi lu au sein de son cabinet, il y a deux ou trois conseillers en matière de l'environnement. On espère bien qu'il va traiter cette question.
Voilà, nous profitons d'ailleurs pour dire, présenter d'ailleurs des félicitations à Jean Didier Mindengou qui a toujours été notre invité dans cette émission Parole aux auditeurs et aussi au Capi Service qui se trouve dans les collèges des conseillers en matière d'environnement. Voilà, Deo Gracias, vous gardez la ligne et Bob Tshibangu également. Omar, vous nous avez rejoint. Bonjour Omar.
Bonjour JR et bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution Omar?
Merci JR, c'est très important. Nous l'avons toujours dit, l'environnement n'est pas seulement un cadre de la vie, c'est aussi une source de revenus. Lorsqu'il est malsain, la vie n'est pas possible. Moi, en tant que juriste, c'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que j'interviens. Pourquoi? Parce que nous sommes un état de droit tel que promu par l'actuel président. Il y a eu beaucoup de textes, beaucoup de conférences face auxquelles on a pris part. Mais il n'y a aucun résultat. Si on peut seulement commencer avec la déclaration de Tokyo. Notre loi fondamentale, article 53, parle de tout Congolais qui a droit à un environnement sain. Mais il faut voir dans quelles conditions vivent les Congolais, dans les quartiers périphériques. On parle de la convention de Maputo, l'une des conventions phares de l'Afrique, qui interdit aux gens même de fumer en public. Notre pays l'a ratifié, mais quel policier a déjà arrêté quelqu'un qui fume en public? Ce qui est difficile, parce que lorsqu'on parle de l'environnement, on ne voit pas que le sol, on voit l'eau que nous vivons, on voit le sol, l'air que nous respirons. Il y a eu au Congo la loi en 2011 portant protection de l'environnement. Et cette loi a institué une police environnementale. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Entre ces lois merveilleuses qui existent et la réalité environnementale sur le terrain, il y a un écart profond. On se demande quelles sont les causes. Moi, je pense à mon avis. Aujourd'hui, il y a des fumées, des cigarettes et des voitures cacophonisées qui polluent l'air. Aujourd'hui, il y a non-entretien des caniveaux. Les gens ne savent même pas où jeter les déchets. Aujourd'hui, on ne sait même pas jeter les déchets toxiques. Quelqu'un peut s'élever chez lui, jette à la rue. Aujourd'hui, il y a l'implantation des antennes paraboliques. C'est démontré, je crois, l'expert qui est votre invité va vous le démontrer, que lorsqu'on implante une antenne parabolique cellulaire auprès des habitations, ça peut rendre les hommes stériles. Aujourd'hui, les brassicoles qui font des boissons jettent ces déchets dans l'eau. Aujourd'hui, on a des maladies comme le choléra. Qu'est-ce qu'on en fait? Et enfin, il y a des constructions anarchiques où la vie n'est pas possible. Mmh. Moi, je pense, je peux aussi citer les activités minières. Il est démontré scientifiquement que l'activité minière a des conséquences environnementales. D'ailleurs, le code minier tel qu'il est révisé en ces jours oblige à ses opérateurs
de payer,
beaucoup pour assurer la santé, mais ce n'est pas fait et les gens meurent. On a beaucoup de maladies choléra, Ebola, CV qu'on fustige, mais il y a des causes environnementales. Moi, je pense qu'on cherche des solutions. Première cause pour moi, j'ai c'est la faiblesse du contrôle. Et là, je veux qu'on puisse réhabiliter la police environnementale, qu'on puisse conscientiser les pouvoirs judiciaires. Lorsque quelqu'un ne respecte pas une norme environnementale, il commet une infraction. Nous l'avons toujours dit et nous les rappellerons. En Deuxième République, des policiers passaient. Si vos déchets ne sont pas gérés, si vos poubelles ne sont pas entretenues, il y avait des amendes qui étaient payées. Et lorsque la sanction est là, les gens se réhabilitent. Mais il y a un problème fondamental, une cause importante hier, c'est le manque d'éducation environnementale. Combien de Congolais savent qu'un sachet peut durer 50 ans sur le sol? Combien de Congolais savent qu'un déchet jeté dans l'air peut polluer l'air et peut entraîner la mort des enfants? Nombreux ne savent pas. Est-ce qu'au niveau des écoles, est-ce qu'au niveau des églises, on se limite à dire aux gens qui vont aller en Europe, il y a des messages adaptés? Je ne pense pas. Combien de membres des gouvernements, parmi les ministères qui sont bien alimentés financièrement et les ministères de l'Environnement, qu'est-ce qu'on fait du budget qu'on leur alloue? Il n'y a aucun programme qui est fait. Il y a beaucoup de services publics qui accompagnent les ministères, mais il n'y a rien sur le terrain. Moi, je pense, si vraiment on réhabilite les contrôles pour voir si c'est respecté, on éduque les gens sur l'environnement, au niveau des écoles, dès l'école primaire, au niveau de l'université, au niveau des médias, comme le fait la Radio Capi, au niveau des églises, l'église a un grand rôle. L'église n'est pas seulement là pour dire aux gens qu'ils iront au ciel, ce qui est bien, mais ils sont aussi là pour changer, impacter la vie des gens. On vient à l'église pour changer. Au niveau des familles, le respect qu'on donne à l'environnement. Vous voyez seulement dans les familles africaines, leurs poubelles ne sont pas couvertes, leurs toilettes sont sales. Or, il est démontré en microbiologie, il y a des microbes aérobies et des microbes anaérobies. Lorsque quelqu'un n'est pas enseigné, comment va-t-il se protéger? Moi, je pense que c'est un problème transversal, même au niveau des codes miniers. Les ministères des mines doivent intervenir pour faire payer les taxes minières, parce que ces moyens qu'on récolte permettent de lutter contre cela. Les ministères de l'enseignement doivent initier des programmes adaptés. On apprend aux enfants David Livingstone, Jeanne d'Arc, apprenez-les des réalités sérieuses. L'enseignement doit être adapté à la réalité. Moi, je pense que tous les ministères concernés, l'enseignement, l'urbanisme et l'habitat, au niveau de la police environnementale, au niveau du pouvoir judiciaire, si toutes ces solutions sont appliquées, on aurait un environnement, ça fait très mal. Vous voyez seulement au Congo, un chauffeur qui conduit dans un véhicule peut commencer à fumer dans un bus. Personne ne l'inquiète, personne ne l'arrête et les policiers les voient. Donc, il y a des pratiques qui sont vécues, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'exécution de loi alors que l'argent est sorti. Je pense que la somme de ces solutions que j'ai humblement proposées pourrait faire une très bonne affaire.
Merci beaucoup, Omar. Vous avez relevé la faiblesse du contrôle qui donne comme conséquence au fait l'impunité. Et puis, bon, c'est lié au civisme, au manque du civisme environnemental. Et ces problèmes, vous l'avez dit, c'est quand même un problème transversal. Est-ce que, Deo Gracias, vous êtes à Kananga, vous partagez cet avis?
Oui, je partage cet avis-là et j'encourage l'idée qu'il a évoquée par rapport, n'est-ce pas, à la police environnementale. Il faut que cette police-là soit là et travaille, en tout cas, que l'on voit les activités de cette police-là sur le terrain. Parce que vous verrez qu'on a souligné un point-là important. On a dit que non, il faut que la population soit éduquée d'une manière par rapport à son mental. Le mental de la population, on peut à tout moment, n'est-ce pas, l'imposer aussi pour que les changements, c'est le gouvernant, qui impose au gouverné le changement. J'étais content lorsque, n'est-ce pas, on a suspendu le ministre des Affaires foncières et autres. Vous verrez que chez nous, prenons les cas partout en RDC. Voyez comment les divisions des affaires foncières gèrent les terrains. Voyez seulement la manière de les services des cadastres et autres gèrent les histoires. Donc c'est une manière anarchique et catastrophique. Ils oublient qu'à la longue, ils sont en train, n'est-ce pas, d'enfoncer l'État dans la mégestion. Prenons le cas de la gestion, n'est-ce pas, de ces déchets-là. Ici à Kananga, demandez seulement à la mairie et autres. quelles sont les activités de campagne qu'il a une fois déjà initiées pour seulement, n'est-ce pas, la récolte des déchets là, pour le civisme de récolte de ces déchets à mettre dans des poubelles. Combien de poubelles y a-t-il sur la ville de Kananga pour que la population jette les déchets plastiques dans des poubelles là? Ou soit, quelles sont les activités déjà initiées pour, n'est-ce pas, le recyclage des bouteilles plastiques? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pourquoi nous avons à tout prix des grands problèmes. Mm-hmm. Et si je me remets à cet aspect de, n'est-ce pas, des choses par rapport à la puissance de l'État congolais, nous sommes un État très puissant.
Avant de vous libérer, Omar a évoqué juste le texte, hein, la loi sur l'environnement, aujourd'hui qui n'est pas appliquée. C'est cela le problème, parce qu'il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été apportées à cette loi.
Oui, il y a beaucoup d'innovations dans cette loi-là qui ont été évoquées. Je prends l'aspect des choses, n'est-ce pas, émises par le professeur Chuban Kalal. Vous voyez que en matière environnementale, il a évoqué, n'est-ce pas, la puissance de l'État congolais par rapport à l'environnement. Vous verrez que cet État ici, qu'on néglige sur l'aspect environnemental, peut se faire beaucoup de moyens, n'est-ce pas, et alourdir, n'est-ce pas, son budget par rapport seulement à l'environnement. Aujourd'hui, si l'État congolais s'imposait à la face du monde pour dire que non, ceux qui se retirent de l'accord de Paris doivent verser ces fonds-là parce que nous servons le monde tout entier. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les forêts aujourd'hui sont aménagées? Il y a la politique de reboisement. Dans une décennie ou deux décennies, vous remarquerez que nous aurons des grandes sécheresses chez nous ici au Congo. Les arbres vont commencer à sécher. Et est-ce qu'il y a la politique seulement de reboisement? Les forêts là, la forêt équatoriale là, peut disparaître un jour. Mm-hmm.
Voilà pourquoi le président de la République a amené dans sa délégation un jeune qu'il a d'ailleurs adossé au niveau du sommet, et qui au fait travaille sur ces projets-là de reboisement pour éviter au fait la déforestation. Donc les gens doivent utiliser d'autres alternatives. Merci beaucoup, hein, Deo Gracias, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission en Kananga et surtout de la matière que vous avez apportée dans ces débats. Merci. Alors Jirès, vous êtes à Bandundouville. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour Jeudi. Jeudi, merci de m'avoir accordé la parole. Hein. Question environnementale préoccupante partout dans le monde et en particulier ici à NRDC. Et comment vous conviendrez que l'animal le plus dangereux, hein, donc l'homme réfléchit chaque jour pour pouvoir améliorer sa vie en faisant recours aux infrastructures environnementales. Et cela est souvent de façon irresponsable et cupide. Alors, s'il parle de la cupidité, prenons par exemple lorsque l'on octroie des parcelles, donc on fait les lotissements des parcelles. Et je dis, il y a le service étatique qui se permet aujourd'hui de pouvoir rétrécir sur les avenues. Dans certains endroits, même, ils bouchent les avenues par cupidité pour pouvoir avoir plus de parcelles et gagner un peu plus de l'argent. Alors, lorsqu'il n'existe pas des avenues, soit lorsqu'il y a des avenues rétrécies, des eaux de ruissellement qui, d'ailleurs, dans la plupart des parcelles, sont canalisées vers l'Ouerie. Alors, ces eaux de ruissellement sont aujourd'hui à la base des érosions. C'est vraiment très regrettable aujourd'hui. S'il faut vraiment jeter un coup d'œil sur la question environnementale. Je dis, si vous permettez une anecdote, lors de la campagne électorale, je suis passé devant le business d'un candidat député. Je dis, j'ai remarqué devant son business que le monsieur avait des montagnes de sachets qu'il jetait. Et je me dis, le monsieur s'est dit candidat député, candidat député en tant que tel, il doit militer pour les intérêts de la population. Mais il était regrettable, j'ai d'ailleurs pris des rails de remarquer que ce même monsieur jetait des sachets dans la rue, ne pesant pas les conséquences que ces sachets peuvent causer à la vie de la population qu'il prétend défendre. C'est vraiment regrettable. À mon avis, je crois que la solution passe, comme l'a dit l'invité, par le respect des normes environnementales, et nous devons pratiquer le principe des 3 R, donc RRR. Donc, quand je parle des 3 R, il y a le refus, il y a la réduction, ainsi que le recyclage. Alors, s'agissant de refus, vous prenez par exemple aujourd'hui, la plupart des parents, lorsque leurs enfants vont à l'école, je dis, ils leur donnent les biscuits, on donne et souvent des bonbons. Oui, c'est bien de donner des bonbons aux enfants, mais les bonbons,
sont passés, le bambou est passé par plusieurs transformations. Alors, toutes ces transformations ont occasionné des conséquences graves sur l'environnement. Alors, la meilleure façon de pouvoir réfugier, de donner les bonbons aux enfants, consiste à leur donner, par exemple, la banane à la place du bonbon. Quand on donne la banane, comme l'a dit l'invité, la peau de la banane peut facilement être
dégradée
par la nature elle-même par rapport au sachet. Alors, s'agissant de la réduction, prenons par exemple aujourd'hui, il y a des gens qui ont leur moto dans la ville de Bandundu ici, et ailleurs, il y a des gens qui ont leur voiture. Mm-hmm. Alors, et vous pouvez réduire la production de gaz à effet de serre en prenant par exemple les taxis. Vous refusez de prendre votre propre voiture, vous montez sur les taxis parce que vous-même, lorsque vous roulez sur votre moto, sur votre voiture, vous produisez des gaz à effet de serre.
Et là, vous réduisez sensiblement les effets.
Oui, donc qui détruit la couche de l'ozone, qui est une couche protectrice de la nature. Et cela est regrettable. Alors, je parle aussi du recyclage. Hein. Je vous dis, il n'est pas interdit à ce qu'on puisse consommer de l'eau importée, mais ces eaux viennent dans des bouteilles. Alors, ces bouteilles, une fois l'eau consommée, deviennent des déchets. Il existe un problème très sérieux de la gestion des déchets plastiques. Mais il existe aussi un moyen de pouvoir recycler ces déchets. Moi, par exemple, je vous dis là, j'ai fait une conception d'une maison, donc d'une construction où les murs seront construits essentiellement en bouteilles en plastique. Mais quand vous avez un projet comme ça, vous n'aurez pas un financement. C'est ce qui est vraiment regrettable.
Comment vous êtes arrivé à ces projets? Est-ce que vous-même, vous avez travaillé sur le recyclage de cette matière?
Oui. J'ai fait des études environnementales. J'étudie l'environnement et l'assainissement à l'ISES Square Rouge. Et à part ça, j'évolue aussi dans le domaine de la construction. Donc, j'ai mis en symbiose et toutes ces connaissances qui m'ont amené à pouvoir faire une
voilà, je crois qu'il s'agit là de matière grise que la République devra utiliser dans les prochains jours. Merci Jirès d'avoir appelé de Bandunduville et nous rappelons également que vous intervenez comme auditeur, mais vous êtes un expert en environnement. Vous avez dit et vous l'avez signalé que vous avez fait vos études à l'ISES Croix-Rouge ici à Kinshasa. Merci beaucoup Jirès. Alors Justin, vous êtes à Fungurume. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Merci, monsieur Gère, et merci d'avoir m'accordé la parole. Je vais débuter avec une histoire vraie que je vis avec mes propres yeux. Il y avait une fois quand je partais à Mutanda Mining, il y avait des poubelles qui étaient placées quelque part pour que les paysans qui habitent aux environs, à l'entrée là, qui puissent mettre des déchets. Mais à ma grande surprise, une dame qui venait avec des déchets, des arachides et des trucs qu'il avait enlevé dans sa maison, il est allé déposer, jeter par terre à côté du poubelle. Et encore à Colosie, à l'arrêt de Falcon, il y avait des passagers qui attendaient voyager. Au lieu de jeter le déchet dans la poubelle, ils jetaient encore par terre. Un Congolais, dans notre pays en République démocratique du Congo, nous souffrons déjà la mégestion des déchets, voire même en matière fécale, quelque chose qui fait un peu honte, mais les gens le jettent partout ailleurs. Et je donne la faute à des entités. Il y a une part, l'État qui n'assume pas bien ses responsabilités, et les fabricants aussi fabriquent avec une mauvaise foi. Je débute d'abord par l'État. Il y a des commissions des hygiènes qui passent à collecter des taxes dans des marchés, partout, même dans des gens qui sont en train de vendre des bars. Mais je ne sais pas où est cet argent est affecté. Au lieu d'affecter cet argent à l'environnement, écarter des déchets, jeter très loin, mais cet argent, on le collecte pour se servir eux-mêmes. Et si l'État mettait une forte pression à la population, on trouve le matin les déchets devant votre parcelle, on vous attrape, on vous met en prison, où les gens commenceront à dénoncer ceux qui jettent des déchets la nuit. Et pour ne pas monopoliser la parole, j'ai dit aussi aux fabricants, Si on même on demandait le recyclage, est-ce que quand on va recycler les bouteilles en plastique, les sachets, il y aura le produit qui viendra là, ce sera dégradable.
Voilà, là ça, relance le débat sur le tout dernier arrêté du ministre de l'Industrie, hein, sur cette question des déchets, des emballages, les sachets en plastique. Toute cette question qui avait divisé et le producteur localement à Kinshasa, qui en fait contribuait aussi en termes de la lutte contre la pollution ou encore d'autres mauvaises gestions, question de mauvaise gestion de la ville de Kinshasa. Mais c'est là est resté vraiment une polémique qui n'a pas trouvé vraiment de solution par rapport au décret du Premier ministre et l'arrêté ministériel du ministère de l'Industrie sur cette question. Mais le principe des 3 R évoqué par Giresse, nous allons revenir avec vous, notre invité, tout à l'heure. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Radio Kapi vous convie à des balades dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le lundi à 14h15.
Parole aux auditeurs.
Bob Tshibangu, vous êtes avec nous, vous avez suivi les uns les autres. Lorsque Giresse de Bandundu évoque le principe des 3 R, comment vous réagissez-vous personnellement?
Non, en fait, je pense que mes collègues ils maîtrisent la question et ils savent vraiment l'enjeu de la protection de notre environnement. Et je suis en train d'insister sur... sur un fait, c'est l'application aussi des sanctions. Parce qu'il y a un intervenant qui l'a souligné.
Qui a parlé de contrôle.
Voilà, le contrôle. Et aussi l'application des sanctions. Parce que chez nous, j'ai l'impression que, au niveau de services de l'État, à tous les niveaux, il y a des services de l'environnement. Au niveau des provinces, au niveau des communes, il y a des services de l'environnement. Mais qui ne jouent pas pleinement leur rôle. Pourquoi? Parce que ils se limitent à certains aspects de leur travail. Vous allez remarquer que ils ont des outils. Ils ont des outils, ce sont des lois qui sont rénovées, qui sont actualisées pour leur permettre de bien faire leur travail, mais ils se limitent seulement à certains aspects. Je donne un exemple. Vous allez remarquer que dans des quartiers, si un agent de l'environnement trouve quelqu'un en train de ramasser du sable sur une avenue, en tout cas, vite, il va l'arrêter sans lui dire le pourquoi. Sinon, voilà, tu as pris du sable, on t'arrête, tu dois payer une amende. Mais la meilleure façon de gérer l'environnement, c'est dire à la personne où est-ce qu'on peut prendre du sable. Parce qu'il y a des sables, quand tu les tires à un endroit, tu laisses le sol fragile, tu laisses le sol vulnérable et à des érosions. Mais on veut bien arrêter seulement. Tu coupes l'arbre dans ta parcelle, on va venir t'imposer des amendes. Mais on ne te dit pas pourquoi tu ne dois pas couper l'arbre. Et on ne te dit pas, quand tu coupes l'arbre, qu'est-ce que tu dois faire pour remplacer. Donc comment tu peux reboiser? Mais nous, on se limite juste sous des petites sanctions. On t'arrête, tu payes l'amende, tu payes 10 000 francs, 20 000 francs et on clôt le dossier. C'est pourquoi j'ai dit on doit plus renforcer avec la sensibilisation. Donc les gens, ils pensent que si je coupe un arbre, l'inconvénient, c'est payer l'amende. Il ne sait pas que quand je coupe l'arbre, je m'expose moi-même, j'expose notre air. C'est ça le problème. C'est la sensibilisation plus que nous voulons que le gouvernement puisse classer parmi les priorités. Sensibiliser la population sur les différentes lois qui sont votées au niveau du Parlement et aussi leur application.
Et les engagements pris par la RDC au niveau national et international.
Effectivement, au niveau national et au niveau international. Mais quand on prend un engagement au niveau international, c'est pour que ça soit appliqué au niveau national. Et il faudrait qu'il y ait des retombées pour qu'on constate une amélioration.
Oui, tout à l'heure, Omar a évoqué le cas de l'accord de Maputo.
Oui.
Jusque-là, on ne sent pas des retombées.
Effectivement, c'est parce que il n'y a pas eu trop de sensibilisation. L'État n'a pas mis trop de moyens dans ça. Parce que pour sensibiliser, il faut un peu de moyens. Ça, on doit quand même être d'accord. Il faut un peu de moyens pour sensibiliser. Donc, il ne suffit pas de ratifier sur un accord et puis croiser les bras.
Voilà,
il faut des mesures d'accompagnement.
On va revenir à vous, Bob Tshibangu, pour la conclusion de cette émission. Il est temps d'écouter Sylvain Lumu qui était à Kinshasa. Sylvain, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour. Je ne suis pas Sylvain Lumu. Normalement, je suis Sylvain Luma.
Voilà, Sylvain Luma, vous avez la parole.
Oui, je disais que j'ai trouvé les idées intéressantes, mais moi, j'estime qu'au-delà du recyclage des déchets, parce que le recyclage des déchets, peut-être on pouvait apprendre ce moyen ou bien cette possibilité aux gens qui sont dans les grands centres urbains comme Kinshasa, Lubumbashi ailleurs, mais dans les villages, ça ne sera pas efficace parce que le plus grand problème environnemental aujourd'hui, ce n'est pas seulement la gestion des déchets, mais c'est aussi le problème des reboisements ou bien des déboisements des arbres. Alors, il faut sensibiliser. Alors, moi, la meilleure façon de sensibilisation que j'estime, moi, c'est d'instruire un nouveau programme d'enseignement au niveau maternel, primaire, secondaire, voire même universitaire. À chaque niveau, on doit apprendre aux gens de connaître quel est l'impact de l'environnement, quel est aussi l'impact ou l'implication de la destruction de l'environnement. Donc, et aussi, il faut investir beaucoup plus de fonds qui peuvent apporter des revenus sociaux, occuper par exemple les villageois à d'autres activités pour ceux qui font la braise ou bien ceux qui font le champ. Donc, imaginez d'autres activités à caractère économique ou bien social qui peuvent permettre à des populations à bien vivre l'air, de continuer à détruire l'environnement. Voilà ma proposition.
Merci beaucoup Sylvain d'avoir appelé. Alors on revient à vous Bob Tshibangu. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Protégeons mieux notre environnement pour vivre mieux.
Je pense que s'il faut revenir sur l'intervention du dernier intervenant, je dis que c'est une bonne chose de sensibiliser nos populations. Dans les villages, par exemple, il y a le code forestier actuel autorise les autochtones d'utiliser légèrement la forêt pour leur survie. Mais cela a toujours des impacts négatifs. Mais s'il faut y mettre un terme, il faut chercher des moyens palliatifs pour leur survie. Quand ils n'utilisent pas la forêt, comment ils vont vivre? Et comment ils peuvent utiliser cette forêt en lui laissant le temps de se reproduire? Nous voyons l'utilisation l'usage des briquettes. Il y a des programmes au niveau de l'intérieur où on apprend aux gens d'utiliser des briquettes en lieu et place de bois. Et tout ça, ce sont des petites pratiques qu'on peut utiliser et au niveau des centres urbains et au niveau de nos villages pour préserver notre environnement. Parce que sans environnement, nous allons disparaître. Et l'environnement est en train d'être menacé sérieusement. Et nous devons, nous, en tant que population, ensemble avec le gouvernement, nous mettre au travail, essayer de mettre en place des politiques claires et les appliquer pour protéger notre environnement.
Voilà, merci beaucoup Bob Tshibangu. Nous devons tous travailler dans le sens de protéger notre environnement. Comme l'a dit d'ailleurs Giresse, on doit tout faire en respectant les 3 R, notamment le refus, la réduction sensiblement de la pollution et puis le recyclage comme dernière étape. Merci d'avoir accepté notre invitation Bob Tshibangu et d'avoir accepté d'échanger de manière citoyenne avec tous les auditeurs. Nous disons également merci à tous ceux qui ont participé cette émission. Vous étiez nombreux à avoir lu et commenté ces sujets sur notre page Facebook. Les débats se poursuivent sur www.radiocapi.net. Vous pouvez également lire notre sujet de demain à soumettre, en tout cas au débat, et réagissez déjà. Pensez aussi à déposer votre numéro de téléphone et nous allons vous recontacter pour vous proposer d'intervenir dans cette émission. On ne peut pas se quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Jean-Claude Nsiala était à la mise en onde. Nico Kala à la production de cette émission réalisée par Pierrot et la Mégie sous la supervision de Martin Sebojangwe. Ce programme vous a été coordonné et présenté par J.R. Lungembo Lwabung Anji. À très bientôt.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas.